Je vous invite à la lecture d'un tout petit psaume, le psaume 131, qui suit immédiatement celui que nous avons médité avec Paul la semaine dernière, donc qui était le psaume 130, si vous suivez. Et là, nous sommes donc au psaume 131, et c'est à la page 720 dans les Bibles bleues. Trois versets, un petit psaume très court. Psaume 131, et nous sommes donc à la page 720 des Bibles bleues. Psaume 131, chant des montées de David. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Amen. À une époque où la surcharge est partout, surcharge d'images, de bruits, de biens, de sollicitations, un mouvement de remise en question de cette surcharge connaît un certain succès depuis quelques années. On parle de simplification parfois, simplifier sa vie, ou bien de minimalisme dans le domaine notamment de la décoration, du mobilier, du design. Avoir moins de choses, mais des choses qui ont du sens. Revenir à une certaine sobriété dans les activités et les choix de vie. Alors, ce mouvement de simplification est intéressant à plusieurs égards. Il peut être une réaction saine à notre société de la surconsommation. Mais bien sûr, comme presque tout, il peut devenir aussi une idole, une fausse espérance. Et en fait, la question est de savoir pourquoi on simplifie sa vie. Et qu'est-ce qui va prendre l'espace qu'on libère ? En préparant cette réflexion sur le psaume 131, dans le cadre d'une petite série de trois dimanches où nous étudions donc trois psaumes des montées, j'ai été frappé par la continuité avec le message apporté il y a deux semaines sur la devise de l'année. Pourtant, un tout autre texte, Osée 12, 6 et 7, étonné par la continuité entre ces deux textes, finalement. Nous avions parlé déjà ce jour-là d'un retour à une simplicité dans la foi. Et Paul y a d'ailleurs fait à nouveau référence la semaine dernière. Et simplicité, je le rappelle, ne veut pas dire facilité ou simplisme. Ce n'est pas la même chose. Une vie simple, on pourrait dire que c'est une vie qui ne court pas dans tous les sens. Une vie qui sait ce qu'elle recherche. Personne qui sait ce qu'elle recherche et qui se concentre sur cet objectif. Ce petit psaume 131, une sorte d'hymne à la simplicité. Il est attribué à David, mais il fait partie aussi de cette série de psaumes dits des montées ou des degrés, qui vraisemblablement étaient chantés par les pèlerins qui montaient à Jérusalem pour célébrer les grandes fêtes juives et notamment la fête de la Pâque. Et alors que nous commençons à gravir les marches de cette nouvelle année 2020, je voudrais nous inviter à trouver dans ce psaume un appel à la simplicité retrouvée devant Dieu. Et cette simplicité dans ce psaume, elle va de pair avec la paix. Le mot n'est pas utilisé dans le texte du psaume, mais l'idée de paix le traverse. Cette disposition de cœur tranquille et confiante. Et dans ce petit texte, je pense qu'on peut dire que David puise sa paix dans deux façons d'être. L'humilité et le contentement. Et nous les aborderons donc tour à tour, avant de nous associer en conclusion à la conclusion du psalmiste, un appel à l'espérance. D'abord donc, la paix dans l'humilité. Trouver la paix dans l'humilité. Le psalmiste commence par une déclaration d'humilité. Verset 1, Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevé pour moi. Ça peut sembler paradoxal de dire « je suis humble » au risque de se vanter de son humilité, ce qui serait un comble. Un chef d'État étranger, que je ne nommerai pas, disait il y a quelques années « je suis sans doute la personne la plus humble que vous ayez jamais rencontrée » à une intervieweuse. Alors est-ce que notre psalmiste est dans cet esprit-là, en déclarant « je n'ai pas un cœur orgueilleux, je ne m'engage pas » dans des projets trop élevés. Mais ce qui fait toute la différence, me semble-t-il, c'est que David s'adresse à l'Éternel. devant Dieu, il se remet à sa place. Et en fait, il me semble qu'on peut dire qu'il y a plus ici qu'une déclaration d'humilité. Cette parole est en fait une exhortation qu'il s'adresse à lui-même. Éternel, garde-moi d'avoir un cœur orgueilleux, garde-moi d'avoir un regard hautain. Je pense que ce qui confirme cela, c'est le verset 3 qui se termine par une exhortation adressée à tout le peuple. Mets ton espoir en l'Éternel. Autrement dit, c'est en l'Éternel que nous devons placer notre espoir et pas en nous-mêmes. Et c'est ce que David reconnaît au début de notre psaume. Il s'appelle lui-même et il nous appelle à une simplicité retrouvée dans l'humilité. Si on regarde un peu plus près le texte, on constate que David évoque deux aspects de l'humilité. Ou plutôt, on pourrait dire qu'il veut se détourner de deux formes un peu différentes de fierté. La première concerne à la fois le cœur et le regard. Les deux sont associés dans la pensée de David. Verset 1, « Garde-moi d'avoir un cœur orgueilleux, garde-moi d'avoir un regard hautain. » Ou plutôt, « Je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. » Donc, une attitude de cœur et un regard. David ne veut pas être de ceux qui ont un cœur orgueilleux ou un regard hautain. Il veut dire non à cette arrogance par laquelle on se place au-dessus des autres. Et en fait, quand on se place au-dessus des autres, on oublie qui on est devant Dieu. Créé comme les autres, pécheur comme les autres, ayant besoin du pardon de Dieu tout autant que les autres. S'élever au-dessus des autres revient toujours, en fait, à s'élever contre Dieu, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Et donc, avoir un cœur orgueilleux, un regard hautain, est une tentation qui nous guette peut-être chaque jour. Par exemple, dans notre interaction avec des gens que nous estimons socialement ou professionnellement en dessous, ou simplement faisant partie d'une partie très différente de la société, d'une sphère différente. Ou parce que cette personne a une culture très différente, ou des opinions très différentes, etc. Cela peut être une tentation également dans l'église locale, dans l'interaction qu'on peut avoir avec des gens qui sont plus discrets, ou timides, ou en souffrance. Ou bien ça peut être une tentation lorsqu'on a un ministère public et visible, on peut se sentir important si on ne fait pas attention. Enfin, nous pouvons parfois être arrogants même envers Dieu directement. Estimer mieux savoir que lui ce qui serait bon dans telle situation. Ne sommes-nous pas tentés assez souvent par cela? Estimer savoir mieux que lui le message qu'il faut transmettre en priorité à nos contemporains. Ou décider que tel principe de sa parole est résolument dépassé et qu'on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Et nous avons parfois besoin d'entendre à nouveau ces paroles. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautain. Ce qui rend David particulièrement crédible dans cet appel à l'humilité, c'est qu'il était roi d'Israël. Donc il aurait eu des raisons à l'échelle humaine de se sentir important. Et d'ailleurs, le récit de sa vie montre que parfois il a cédé à cette tentation. Mais ici, il se retrouve devant Dieu, devant son Créateur, devant celui de qui il est entièrement dépendant. Ne serait-ce que le souffle de vie, c'est de lui qu'il l'obtient. Il ne serait rien, littéralement rien, sans Dieu. Et le fait de se retrouver dans ce face-à-face avec Dieu, dans la prière, le ramène sur terre. Et je pense que ça peut nous rappeler que la prière est le meilleur des remèdes contre la fierté et contre l'arrogance. Rien de tel pour nous rendre humbles que de se retrouver devant notre Créateur. Donc la prière authentique, hein, s'entend. Que de se retrouver devant notre Créateur, d'implorer sa grâce, de voir en lui celui qui est infiniment au-dessus de nous et qui maîtrise toute chose, d'être conscient d'être entièrement dépendant de lui et de savoir en même temps que pourtant il a choisi de nous aimer et il nous invite dans sa bonté, dans son amour à nous adresser à lui. Rien de tel pour nous remettre à notre place. Pas d'une manière qui nous écrase, mais au contraire, d'une manière qui nous donne justement la paix. L'humilité, c'est donc cette lucidité sur soi devant Dieu, sur nos limites et sur notre péché. Et c'est libérateur. C'est libérateur. Parce que lorsque j'ai compris que je n'ai pas besoin de passer mon temps à prouver qui je suis, à tenir mon rang face aux autres, ça me libère pour être disponible pour Dieu et les autres. Donc le premier aspect de l'humilité que Dieu évoque, c'est le refus de la vanité vis-à-vis de soi et de l'arrogance vis-à-vis des autres. Second aspect que David dénonce dans la suite du verset, c'est le refus de la présomption. Fin du verset 1. Il dénonce plutôt la présomption. Fin du verset 1, « Je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. » Il me semble que David exprime ici qu'il se remet à sa place, non seulement dans l'attitude de cœur devant Dieu, mais dans sa vision de ses projets. David est conscient non seulement de ses limites propres, mais il est conscient aussi des limites des projets, des résolutions qui peuvent être les siennes. Et il est conscient surtout de ses limites, des limites de ce qu'il peut faire par rapport à ce que Dieu peut faire. Maintenant, en entendant ce bout de phrase, pour la première fois, je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi, on peut peut-être être gêné. Est-ce que David fait, comme on dit, dans le misérabilisme ici ? Surtout pas d'ambition, surtout pas de projet. Je reste bien tranquille dans mon coin, je fais pas de vagues. Je vise toujours très bas pour ne jamais être déçu. Est-ce que ça serait cela, l'humilité à laquelle nous sommes appelés ? Mais il me semble que la clé à nouveau, c'est le fait que David s'adresse à l'Éternel et il retrouve sa place devant Dieu. Dieu, lui, a de grands projets. Et Dieu, lui, n'est pas dépassé par ses projets. Et si ce sont les projets de Dieu qui nous motivent ? Non seulement nous pouvons, mais nous devons voir grand. Mais nos propres projets, y compris ceux que nous voulons mettre, et même sincèrement, au service de Dieu, nos propres projets ont toujours leurs limites. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut se mettre dans un coin et arrêter de rêver ou d'avoir des projets ? Certainement pas. Mais comme David, nous devons discerner nos limites. Ne pas confondre nos projets avec ceux de Dieu. Et ça nous renvoie encore une fois à la prière. Je lisais une citation du philosophe chrétien Jacques Ellul, qui circulait un peu sur les réseaux sociaux l'autre jour. Peut-être certains l'ont vu, et Jacques Ellul, dans cette citation, dénonce les prières qu'on fait parfois au début d'une réunion pour se donner bonne conscience, avant de tout gérer ensuite comme si tout dépendait de nous. Donc on prie pour se couvrir un peu, puis ensuite on fait tout comme si Dieu n'était pas là. C'est pas ce qu'il dit exactement, mais c'est son propos. Je pense qu'il ne faut certainement pas arrêter de prier au début de nos réunions ou projets, comme par exemple notre Assemblée Générale cet après-midi. Nous allons prier. Mais la réflexion est pertinente. Parfois, la provocation peut être utile. Est-ce que nous sommes vraiment en train de demander à Dieu sa sagesse ? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à lui soumettre entièrement nos réflexions et décisions ? Et si ça allait à l'encontre de ce que nous avions prévu ? Est-ce que nous sommes prêts à prendre le risque de la prière ? C'est vrai à l'échelle d'une église, mais c'est vrai à l'échelle individuelle également, familiale, etc. Si nous prions pour les décisions ou projets que nous nous apprêtons à prendre, nous devons jouer le jeu de la prière. Nous devons être prêts à les soumettre réellement à Dieu, quitte à ce qu'il nous emmène dans une nouvelle direction. C'est lui le patron. Nos projets doivent se soumettre aux siens. Et c'est aussi cela, l'humilité. Donc il ne me semble pas que David ici dise qu'il ne faut surtout pas faire de vagues, il faut surtout rester dans son coin, mais plutôt que David est bien conscient de ne pas être Dieu, et que les projets qui sont les nôtres doivent toujours être soumis aux siens. Et si nous retrouvions cette année cette simplicité qui vient d'une humilité de cœur, le refus de la vanité, de l'arrogance vis-à-vis des autres et de Dieu, et le refus de la présomption, de penser que sans nous le monde ne pourra plus tourner. Mais ce psaume nous montre aussi que la source de cette humilité, ce qui va concrètement nous aider à ne pas chercher à être ou à paraître ce que nous ne sommes pas, c'est le contentement. Et c'est l'idée qu'on trouve au verset 2 et que j'aborde dans notre second point un petit peu plus brièvement. La paix dans le contentement. Verset 2, au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. La traduction du semeur traduit ici avec un peu d'audace comme un enfant sevré porté par sa maman. L'image, c'est vrai, est pleine de tendresse. Un enfant qui joue à côté de sa mère ou qui est dans ses bras et qui est en paix, qui est satisfait. Alors qu'est-ce qui fait qu'un enfant sevré peut être tranquille avec sa mère? Eh bien tout simplement le fait qu'il n'est pas sans cesse en train de vouloir prendre le sein, en train de vouloir manger. Il peut simplement apprécier la présence de maman, son affection, sans être toujours à vouloir obtenir quelque chose d'elle. Alors certes, comme le rappelait ma femme quand on discutait un peu de ce message, les enfants sevrés ne sont pas calmes en permanence, mais j'en suis d'ailleurs tout à fait conscient, mais on comprend l'image que veut donner le psalmiste. C'est une image de contentement qui nous est donnée ici. Un enfant qui n'est plus en train de réclamer sans cesse, qui est repu et paisible, et je pense que c'est l'idée, même l'idée la plus précise, c'est qui peut simplement profiter de la présence de cette personne dont il a besoin par-dessus tout, plutôt que de toujours attendre quelque chose de cette personne. Si nous réfléchissons un peu à notre quotidien, quand est-ce que nous ressentons quelque chose de ce contentement? Ces moments où on se dit « ça y est, c'est fait, je peux me détendre, je peux être en paix, profiter du moment », je pense que c'est assez rare. Peut-être qu'on ressent cela lors d'une belle soirée d'été entre amis, autour d'un bon repas, en vacances. Peut-être que les étudiants ressentent cela lorsque leur période d'examen est terminée. J'espère que nous ressentons cela alors que nos travaux de mise aux normes sont enfin terminés. Nous pouvons nous réjouir maintenant et profiter un peu de ces beaux locaux. Mais ces moments sont rares. Si souvent nous estimons ne pas être là où nous devrions être, il y a un décalage entre ce que nous vivons et ce que nous devrions vivre. Et ce que nous voudrions et ce que nous devrions vivre. On ressent toujours cette tension et ce décalage. On n'est pas vraiment là où on voudrait être, la plupart du temps, je crois. Et dans un sens, c'est normal. Ça fait partie de notre réalité, de notre condition présente. Même dans une perspective biblique, nous attendons la délivrance finale. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous attendons la résurrection des rachetés, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais il y a une différence entre l'attente, l'aspiration et l'agitation. Et dans le verset 2, David exprime la paix qui vient de la satisfaction trouvée dans la simple présence de Dieu dans sa vie. Et le au contraire du début du verset 2, montre qu'il y a un lien entre l'humilité exprimée au verset 1 et le contentement du verset 2. Et je trouve ce lien assez intéressant. David n'a pas besoin d'être quelqu'un d'important, d'avoir des pensées hautaines, arrogantes. Il n'a pas besoin non plus de tout comprendre et de tout maîtriser. Pourquoi? Parce qu'il est satisfait. Il a reçu de Dieu ce dont il a besoin. Et il me semble que la fin du verset nous oriente vers ce qu'il a reçu de Dieu précisément, sa présence. Il est comme un enfant avec sa mère. Il est en présence de la personne dont il a besoin par-dessus tout. Et il me semble que si nous ne savons pas par où commencer pour retrouver l'humilité dont nous avons besoin, nous avons ici une réponse. Le vrai problème se trouve au niveau de notre contentement. Le contentement est en quelque sorte la source de l'humilité. Lorsque nous sommes satisfaits, lorsque nous sommes en paix, nous voyons s'éloigner, me semble-t-il, le désir de prouver qui nous sommes, de nous élever au-dessus des autres, ou de faire de grands projets qui nous dépassent. Dans la grande majorité des cas, en tout cas, si nous cherchons à prouver quelque chose, si nous cherchons à nous imposer ou à donner une certaine image de nous-mêmes, c'est que nous avons le sentiment que si nous ne le faisons pas, il manquera quelque chose. Mais Dieu nous appelle à trouver une profonde satisfaction dans sa présence, dans nos vies. Alors bien sûr, dit comme ça, ça peut sembler abstrait. À quoi ça peut bien ressembler d'être satisfait par la présence de Dieu ? Dans le contexte de David et des psaumes, cette satisfaction n'était pas encore très précise. Il y avait une espérance en Dieu, et c'est ce à quoi David appelle, mais voilà, on faisait confiance en Dieu, on se rappelle ses promesses envers Israël, on se rappelle la promesse faite à Abraham qu'un jour les nations de la terre seront bénies, mais tout cela n'est pas encore très concret. Mais nous avons le privilège, après la venue de Jésus-Christ, d'avoir une raison plus précise de trouver notre satisfaction dans la présence de Dieu. Et il me semble que la clé pour prendre ce chemin de la satisfaction en Dieu, c'est de pleinement accueillir notre nouvelle identité en Jésus-Christ. notre nouvelle identité. Je cite, et je pourrais citer beaucoup d'autres textes, mais j'ai choisi celui-ci, Éphésiens 1, 4 à 6. Dans son amour, il, Dieu, nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Dieu a fait de nous ses enfants adoptifs pour que nous puissions nous consacrer à célébrer la gloire de sa grâce. Autrement dit, vivre une vie profondément ancrée dans son amour pour nous, son pardon de nos fautes, ses promesses pour un avenir éternel avec lui. Si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, donc le but de notre vie n'est plus de faire quelque chose de notre vie. Et ça va complètement à l'encontre de ce que nous pensons spontanément. Même chrétiens, nous avons tendance à nous dire que voilà, Dieu m'a donné une vie, il faut que j'en fasse quelque chose. Le but de notre vie n'est plus de faire quelque chose de notre vie, c'est Dieu qui a décidé de faire quelque chose de notre vie en Jésus-Christ. Notre but, notre feuille de route, c'est de grandir dans la connaissance et l'amour de Dieu. Et là encore, c'est libérateur. Quel intérêt de devoir prouver notre importance aux hommes ? Nous sommes aimés par le Créateur de l'univers. Est-ce que ça ne nous suffit pas ? Quel intérêt de courir dans tous les sens ? Le but de notre vie est de plaire à Dieu, de vivre pour lui, de célébrer la gloire de sa grâce. Quel intérêt d'essayer de nous racheter pour des fautes passées ? Il y en a peut-être parmi nous qui traînent encore des fautes passées, qui sont comme des fardeaux, comme des chaînes dont vous avez peut-être du mal à vous libérer. Quel intérêt d'essayer de nous racheter pour des fautes passées ? Dieu lui-même a effacé nos fautes. C'est ce que nous avons rappelé tout à l'heure en prenant la scène. Et il nous a remis sur pied pour vivre une vie nouvelle. Et tout cela n'a rien d'abstrait. Si nous accueillons pleinement ces vérités, nos priorités commenceront à changer. L'importance de choses comme l'influence, l'argent, la reconnaissance sociale et, ou autre, le plaisir d'un instant. L'importance de ces choses commencera à diminuer pour laisser de plus en plus la place à des choses plus durables et plus solides. La joie, la paix, la confiance. Parce que nous n'avons rien à prouver si nous sommes en Christ. Nous n'avons rien à prouver, ni qui nous sommes, ni ce que nous valons. À la croix, tout a été accompli pour nous. Nous n'avons plus besoin d'être des gens importants et influents. Nous sommes libérés pour être au service de Dieu et au service des autres. Cela peut se traduire parfois par des positions d'influence qui sont importantes aux yeux des hommes, mais ultimement, devant Dieu, nous ne sommes que serviteurs. Voilà le contentement que nous pouvons trouver dans l'Évangile. Je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Alors bien sûr, ce n'est pas une réalité que nous allons accueillir comme ça du jour au lendemain d'un coup de baguette magique, comme on dit. C'est un contentement, me semble-t-il, dans lequel on grandit avec le temps, avec parfois des reculs, des rechutes, des doutes, des déceptions. C'est une dynamique, c'est une courbe de croissance. Et en fait, grandir dans sa foi, qu'est-ce que ça veut dire grandir dans sa foi ? Eh bien, il me semble que précisément, c'est grandir dans la confiance en Dieu. Et dans ce contentement trouvé en lui. Et c'est ce qui nous permet de vivre nos épreuves, nos déceptions, nos attentes, non pas en les niant, c'est jamais la solution biblique de faire comme si ce n'était pas là, non pas en les niant ou les ignorant, mais en les replaçant dans une histoire plus grande, que nous ne maîtrisons pas, c'est ce que David rappelle au début du psaume, mais dans laquelle, par Jésus, nous trouvons notre place. Une histoire qui dépasse infiniment nos circonstances actuelles, et qui s'inscrit dans l'éternité. Et c'est d'ailleurs avec cette confiance que David termine son petit psaume, et ce sera notre conclusion. Verset 3. « Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. » Mettre son espoir en l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que dans un coin de la tête, on se dit « toute façon, avec Dieu, tout se terminera bien. » C'est vrai, dans un sens, c'est vrai. Mais mettre son espoir en l'Éternel, alors tout se terminera bien, ultimement avec Dieu c'est vrai, c'est pas forcément vrai dans nos circonstances actuelles. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Mettre son espoir en l'Éternel, c'est estimer que c'est lui, c'est savoir, c'est croire que c'est lui qui maîtrise toutes nos situations et qui n'est jamais dépassé par elles. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment, et c'est un peu quelque chose que le Seigneur, il me semble, me met à cœur ces derniers temps, mettre sa confiance en Dieu veut dire qu'on ne se trompe jamais en choisissant la volonté de Dieu, telle que sa parole nous la révèle. C'est toujours le bon choix. On ne se trompe jamais en choisissant l'obéissance et la foi. Sur le moment, ce n'est pas forcément un choix facile. Mais c'est celui qui, sur le long terme des plans de Dieu, mène à la joie, à la vie, à l'abondance, à la paix. Les solutions expéditives de la désobéissance finiront toujours par décevoir et souvent par détruire. Alors cette année, sachons être à notre place devant Dieu, parce que c'est libérateur. Mettons notre espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Amen.